Entendre ce matin me semble tout à fait à propos. J'aimerais parler de l'espérance. Où est notre espérance? Où est mon espérance? Finalement, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, est venu jusqu'à nous, a touché notre cœur, s'est manifesté d'une manière ou d'une autre. Peut-être sommes-nous encore au tout début du chemin, peut-être avons-nous déjà fait un bon bout de chemin. Mais aujourd'hui, tous, même si c'est en tant qu'enfant, si nous sommes ici, c'est que Jésus s'est approché de nous. Et à chacun d'entre nous, Jésus pose la question, veux-tu être mon disciple ? Peut-être avons-nous déjà dit oui, peut-être n'est-ce pas encore le moment pour nous, peut-être nous sommes encore en questionnement, peut-être que nous avons peut-être un peu lâché sa main et que nous essayons par nos propres forces à revenir sans cesse à lui. Mais j'aimerais aussi vous parler d'une personne parmi ses plus proches disciples lorsque Jésus était sur la terre. J'aimerais vous parler de l'un des 12, et pas des moindres, car on le connaît surtout pour son histoire un peu dramatique. J'aimerais vous parler de Judas. Judas était l'un des 12. Judas était parmi les disciples de Jésus. Il l'a accompagné pendant 3 ans, 3 ans et demi, peut-être un peu moins selon le moment où il est arrivé dans la bande, mais il est arrivé. Et il a participé aux choses que Jésus faisait, aux choses que les disciples faisaient. Il a été envoyé par Jésus pour guérir les malades et chasser les démons. Et lui-même a vu les fruits. Lui-même a été au bénéfice. Il a été également avec les autres à écouter Jésus parler de toutes ses béatitudes, ce sermon sur la montagne. Il a entendu ces phrases extraordinaires, comme celle-ci, par exemple, dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Il l'a entendu. Et il est évident que ces mots ont dû toucher son cœur. Il est évident que, comme les autres, il aimait Jésus. Mais quelle était la particularité de Judas? On peut le voir dans Jean 12, verset 4, il nous est dit, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, Iscariote. Certains parlent d'une région, d'autres parlent de Sicaire. Que le mot Iscariote, Iscariotes, viendrait de Sicaire, Sicari, autrement dit des zélotes, armés de Sica. Les zélotes étaient un courant religieux de l'époque qui cherchait par les armes à repousser les Romains. Et pour eux, il était certain que Jésus, ou du moins le Messie en tout cas, si ce n'est Jésus, devait forcément être un Messie militaire triomphant. En plus, à l'époque, le contexte de l'époque, c'était que le texte le plus lu, le best-seller, c'était Daniel. Et Daniel présente évidemment un Messie triomphant, un Messie victorieux, un Messie qui repousse l'ennemi avec fracas, avec victoire. Mais Judas, il est dit aussi qu'il est fils de Simon. Simon veut dire désert, solitude, qui entend. Finalement, ce Judas, il était un peu seul. En lui-même, il était un peu seul. Et même s'il entendait, cela tournait en rond à l'intérieur de lui. Peut-être que parmi les 12, il avait aussi du mal à être avec les autres. Peut-être était-il physiquement avec les autres, mais intérieurement. Est-ce que son cœur était avec les autres? Si nous partons sur cette interprétation que finalement il était issu peut-être du mouvement des zélotes armés de Sicca, les fameux sicaires, où l'argent qu'il piquait dans la bourse pouvait-il bien aller? Probablement pour ses copains qui eux aussi chassaient les Romains, à coups d'armes, peut-être. En tout cas, cela nous explique peut-être un peu mieux tous les agissements de Judas. Il y a quelque chose de particulier aussi avec Judas. C'est que mine de rien, tous les autres ignoraient qu'il allait livrer Jésus. Et le mot livrer est intéressant, c'est que le mot livrer, en grec, veut aussi dire exposer, mettre en lumière. Finalement, ce Judas était celui qui devait mettre en lumière Jésus. Autrement dit, qui devait propulser Jésus devant tous, l'exposer, afin qu'il n'ait plus d'autre choix que d'annoncer qui il est, que de montrer qui il est. Judas a voulu mettre Jésus finalement face à l'inévitable. Peut-être parce que c'était trop long. Peut-être parce que finalement, certaines choses arrivaient dans la vie de Jésus et peut-être qu'il se disait, mais il était temps que j'agisse. Mais j'aimerais qu'on prenne ensemble l'évangile selon Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 16. Dans le contexte, nous sommes avec Marie de Béthanie qui verse un précieux parfum sur la tête de Jésus. Et les disciples s'étaient indignés. Mais cet argent, quelque part, cet argent utilisé pour ce parfum aurait pu être utilisé pour les pauvres. Ou peut-être que ce parfum, on aurait pu même le vendre et le vendre, et avec cet argent, le donner aux pauvres. Mais Jésus, lui, il voit tout ça, il voit ce contexte. Et il dit, mais vous ne m'aurez pas toujours. Vous ne m'aurez pas toujours, il va dire Jésus. Vous aurez les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. À la suite de ça, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai, je vous l'exposerai, je le mettrai en lumière pour vous. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il avait l'idée au fond de son cœur. Les choses étaient très claires. Jésus devait absolument se manifester selon ce qu'il avait en tête, selon ce qu'il comprenait lui aussi des Écritures. Jésus devait absolument être ce Messie triomphant. Et il devait être maintenant ce Messie triomphant. Parce que si jamais il ne restait pas très longtemps parmi eux, peut-être était-ce donc à lui de déclencher ce moment. Et nous voyons juste après qu'il y a ce repas de la Pâque. Versets 20 à 25. Le soir étant venu, Jésus, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera, m'exposera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Mais est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, « Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Judas, qui a entendu, encore une fois, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux », qui a vu bon nombre de ses frères zélotes, s'il était bien zélote, condamnés par Rome, et notamment à être crucifiés, mais au moins emprisonnés, au moins emprisonnés. Il en a vu être persécuté. Peut-être que ce verset, cette parole de Jésus, l'a lui interpellé par rapport à sa conception de ce que Jésus devait faire. Et là encore, alors que nous pouvons lire « Mais malheur à celui qui va le livrer !» Finalement, il faudrait mieux que finalement cette personne n'existe pas. Comment est-ce que lui a compris ces textes? Parce qu'il va même demander à Jésus « Est-ce moi ? Est-ce moi, maître ?» Et Jésus qui lui dit « Tu l'as dit. » Confirmation, Jésus même me dit que c'est moi. Je vais peut-être même être persécuté pour cette justice. Comment est-ce que parfois nous interprétons et nous tordons les paroles du Seigneur? Et quand je dis nous, moi le premier. Si nous sommes isolés intérieurement, si nous ne rentrons pas en contact et en communion les uns avec les autres, le risque est grand que nous puissions mal interpréter les paroles du Seigneur. Et s'il a voulu hâter, et s'il a voulu, quelque part, pousser Jésus à faire quelque chose, il y en a un avant lui, même deux avant lui qui l'ont fait. Il y en a un qui a cherché à le pousser à faire quelque chose et l'autre qui a cherché à le pousser à ne pas faire quelque chose. Pour le premier, Jésus lui a répondu « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'était Satan qui lui avait dit « Jette-toi du haut du temple, jette-toi et les anges te rattraperont. » Le deuxième, au deuxième, Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan. » C'était Pierre, qui lui aussi avait des idées bien en tête et qui ne souhaitait pas que Jésus meure. Où est mon espérance? Lorsque je fais face à un moment de la vie où tous mes projets, toutes mes compréhensions de la vie ne vont pas comme je le pensais. Où est mon espérance? Un autre exemple, nous l'avons avec toujours des disciples de Jésus. Après la mort de Jésus, ils vont à Emmaüs et sur le chemin, ils discutent ensemble. Ils se racontaient un peu tout ce qui s'était passé. Et nous pouvons lire ça dans Luc, chapitre 24. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Quelle est leur situation à ce moment-là? Quelle est leur situation à ce moment-là? Tous les espoirs qu'ils avaient placés en Jésus, se sont retrouvés cloués au bois. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Leurs espoirs sont vains. Quand bien même, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils étaient tristes, Triste parce que ce qu'ils attendaient, c'était que cet homme en qui ils avaient mis leur confiance les libère. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils étaient déjà libérés. Ils cherchaient une libération pour les temps qu'ils vivaient là à l'instant. Forcément, forcément, ça doit être comme dans mon schéma. Mais ça ne se passe pas toujours comme dans mon schéma. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je ne sais pas vous, mais je rêve que Jésus me montre, mais littéralement dans toutes les Écritures, tout ce qui le concerne. Ça doit être extraordinaire. Il a dû commencer par Genèse 1, verset 1. Et déjà là, il y a des choses à dire. Et il est dit que finalement, ils marchèrent et qu'ils allèrent jusqu'à Emmaüs, sans voir que c'était lui. Il est dit aussi que leurs yeux s'ouvrirent au moment où Jésus rompit le pain. Et là, il se dit cette phrase qui est extraordinaire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin des Écritures. Et nous avons besoin que Jésus nous parle à travers les Écritures. Où est mon espérance? Est-ce que mon espérance est dans le fait de rester sur ce que je connais? Ou est-ce que je connais Jésus profondément comme une personne vivante, dans une relation vivante, et que jour après jour, quand bien même je vive des difficultés, je me laisse interpeller? Quand bien même je ouvre sa parole, l'ayant peut-être lu je ne sais combien de fois, si je suis un ancien dans la foi, est-ce que j'accepte tout à nouveau de me laisser interpeller par la parole? Est-ce que je me laisse approcher par Jésus intérieurement? En qui est mon espérance? Est-ce que je me confie en moi-même? Dans ce que je connais? Dans mon savoir? Dans tout ce que finalement j'ai pu accumuler en connaissance, même de tout ce que j'ai pu lire? Jérémie 17, verset 5, Dieu dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. » Mes idées, mes projets, mes conceptions, tout ça, je dois lui offrir au Seigneur. Si je ne lui offre pas, je vais chercher à faire venir Jésus dans mes projets. Mais si ce sont ses projets, alors ils s'accompliront. Peut-être prendront-ils des formes différentes tout au long du chemin, mais ses projets s'accompliront. Où est mon espérance? Et si ça ne va pas dans ma vie, dans ma famille, dans mon corps? Si j'ai perdu un être cher, et si je suis malade, et que ma peau est trouée par la maladie, et si tout autour de moi semble s'écrouler, et si mon univers s'écroule, où est mon espérance? Où est mon espérance? Peut-être puis-je trouver dans les paroles de Job une vérité profonde pour moi. Chapitre 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Où est mon espérance? Suis-je prêt à aller jusqu'au bout? Suis-je prêt à aller jusqu'au bout? Il est dit, pour les saints, dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Où est mon espérance? Suis-je prêt à aller jusqu'au bout? En ce moment, le peuple juif vit une fête un peu particulière. Sans entrer dans une question politique, simplement, tous les ans, ils ont les fêtes de l'Éternel, qui sont demandées par Dieu directement, que nous pouvons retrouver dans la parole, notamment dans Lévitique, concernant cette fête en ce moment. La fête en ce moment est une fête un peu particulière. Elle intervient juste après la fête du grand pardon, ce moment particulier, central, pour tout juif. Parce que après 10 jours terribles, où ils devaient se demander pardon les uns aux autres, mettre finalement tout à plat, ne plus avoir de rancune les uns envers les autres, que tout soit mis d'équerre entre eux, pour présenter un sacrifice pour le peuple entier, afin qu'à Yom Kippour, ils s'attendent à ce que Dieu leur pardonne. C'était tellement important pour eux que pendant le temple, lorsqu'il était encore en place, le grand prêtre sacrificateur, lorsqu'il y allait peut-être un peu tremblant. Après avoir fait un sacrifice pour lui-même, il était littéralement aspergé, et il allait avec le sang d'une bête sans tache, qui allait être versé sur le coffre de l'Alliance, mais il y rentrait, certains parlent, avec une petite cordelette accrochée à la cheville, avec des petites cloches au bout de cette cordelette. Et ceux qui étaient à l'extérieur, dans le lieu saint, qui n'avaient pas le droit de rentrer derrière le voile, s'attendaient, peut-être, à ce que les cloches arrêtent de tinter. Et si les cloches arrêtent de tinter, c'est que Dieu n'a pas pardonné et que le grand prêtre est mort. Et il fallait vite le retirer. Au final, ils craignaient pour eux, pour le peuple entier. Eux, ils avaient fait tout ce qu'ils devaient faire pour eux-mêmes. Mais ensemble, ils étaient face à Dieu en tant que peuple. Nous avons en Jésus-Christ le pardon pour nos péchés. Il est ce sacrifice, et il est lui-même le souverain sacrificateur qui a apporté devant Dieu son propre sang. Et Dieu a agréé son sacrifice. Pour toujours, son sacrifice est agréé. Pour nous, pour les générations d'après, et pour toutes celles qui nous ont précédés, le sacrifice est accordé. Le pardon est accordé. Après ce temps, quelques jours plus tard, cette fameuse fête dans laquelle nous sommes pile poil au milieu, elle a commencé mercredi dernier et elle se terminera mardi prochain, si je ne dis pas de bêtises, dans la soirée. C'est la fête qui s'appelle Soukhot. Autrement dit, la fête des tentes, ou des cabanes, ou des tabernacles. Et cette tente, elle a des normes particulières. Elle ne doit pas être construite par hasard, ni comme on souhaite. On peut y mettre beaucoup de choses dedans pour l'habiller, mais les normes sont très claires. Il ne faut pas mettre de toit. Ce sont simplement des bouts de bois, peut-être, qui tiennent un peu ensemble à l'extérieur, et pendant une semaine, les familles se retrouvent, prient, mangent, louent le Seigneur et dorment sous cette tente, sous cette soukha. Ils y mettent même des sièges d'honneur, quand bien même ils seraient visités par des envoyés célestes. Un peu à l'image d'Abraham qui a accueilli ces trois anges, qui se trouvent finalement, parmi eux, il y avait le Seigneur lui-même. Mais en accueillant finalement, du coup, ces personnes, il l'a fait de bon cœur et les a accueillis glorieusement, avec honneur. Mais cette cabane n'est pas anodine. Cette cabane, pour eux, représente leur propre vie. Cette cabane, finalement, est un peu fragile. Cette cabane, s'il y a un peu de vent, elle ne tient pas bien. Mais il y a une chose particulière qu'a cette cabane, c'est qu'elle n'a pas de toit. C'est une manière pour eux d'être dépendants de Dieu et de manifester cette dépendance. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, pendant cette semaine-là, eh bien, ils ont tout sur la tête. Et pour eux, c'est une manière de manifester leur dépendance en toutes circonstances. Et de dire, Seigneur, nous sommes dépendants de toi en toutes circonstances. Et finalement, cette fragilité de la vie est une manière de glorifier le Seigneur. C'est dans nos faiblesses que le Seigneur se manifeste le plus, avec le plus, parfois même avec la plus grande gloire. Quand nous savons que par nos propres forces, nous ne pourrions même pas faire un dixième de ce que nous faisons, nous pouvons vraiment glorifier le Seigneur. Où est mon espérance? Est-ce qu'elle est dans ma propre vie, qui pourtant est si fragile? Ou est-ce qu'elle est dans le Dieu qui soutient ma tente, qui soutient ma souka, qui soutient ma vie? Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin et ma vérité. J'ai vraiment aimé ces paroles tout à l'heure. Mon espérance est en lui. Parfois dans ma vie, il y a vraiment des situations où tous mes repères sont chamboulés. Mais est-ce que Christ dans ma vie est chamboulé? Est-ce que ma confiance en lui est chamboulée? Est-ce que je suis campé sur lui comme une moule sur le rocher? Il est le roc des siècles. Il est celui qui ne change pas. Il est celui dont les promesses sont éternelles. Il est celui qui est oui et amen, qui honore ses paroles jusqu'à son terme. Et il a dit, demeure en moi et je demeurerai en vous. Il a dit, nul ne vous ôtera de ma main. Et à travers aussi l'apôtre Paul, qui lui était dans cette assurance, cette confiance totale dans son Sauveur, que rien ni personne ne pourra enlever son amour.